explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jeune homme dont l'avenir semble tout tracé. Né d'un père philosophe et d'une mère peintre, il grandit dans la bourgeoisie intellectuelle. Après une scolarité studieuse, il entreprend de brillantes études de biologie qui le conduisent à effectuer sa thèse sous la direction d'un prix Nobel de médecine. Et après ça, il décide de tout plaquer pour aller s'installer dans une petite cabane près de Darjeeling en Inde. Là, il devient le disciple d'un maître bouddhiste tibétain et c'est dans une toute autre aventure qu'il s'engage. Une aventure spirituelle, bien loin de la brillante carrière scientifique à laquelle il semblait promis. Près de 50 ans après cette décision radicale, notre chercheur défroqué ne regrette rien. Mathieu Ricard, c'est de lui dont il s'agit, est devenu moine bouddhiste. En 5 décennies, il a arpenté l'Himalaya, alternant retraites méditatives dans les lieux les plus inaccessibles et voyages riches en rencontres et en découvertes. Mathieu Ricard raconte son parcours hors norme et sa quête spirituelle dans des mémoires intitulées « Carnet d'un moine errant » qui viennent de paraître aux éditions Alary. Cet après-midi, de l'Inde au Tibet, en passant par le Bhoutan et le Népal, Mathieu Ricard revient avec nous sur son demi-siècle d'errance en Himalaya. Cette émission préparée par Claire Tesser est réalisée par Stéphanie Texier, avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Je suis né le 12 juin 1967 à l'âge de 21 ans. Ce jour-là, j'ai rencontré Kangyo Rinpoche, mon premier maître spirituel. Une route sinueuse et défoncée d'un peu plus de 3 km menait en pente raide à Lebong, un petit village en contrebas de Darjeeling. Au nord, à la frontière du Sikkim, du Népal et du Tibet, à près de 8600 mètres d'altitude, s'élevaient les sommets enneigés du Kanchenjunga, le grand glacier aux 5 trésors. Une dizaine de villageois et moi-même étions entassés avec des ballots de marchandises, quelques poules et 2 chèvres, dans un Land Rover maintes fois rafistolé et qui effectuait le service régulier de navette.
Bonjour Mathieu Ricard.
Bonjour cher ami.
Nous venons d'entendre les premières lignes de vos mémoires, Carnet d'un moine errant aux éditions Alary. Vous nous plongez directement sur cette route sinueuse près de Darjeeling en Inde, pas loin de la frontière avec le Tibet, le jour de votre première rencontre avec celui qui allait devenir votre premier maître spirituel. Vous vous souvenez avec autant de précision de ce 12 juin 1967 ?
Alors c'est drôle parce que les souvenirs, c'est finalement très sélectif. Il y a beaucoup de choses importantes que j'ai complètement oubliées. Et puis il y a des tout petits détails, la mousse sur les marches qui menait à cette cabane avec un toit en tôle peint en vert, l'eau qui débordait des gouttières, remplissait... Et puis la rentrée dans cette pièce sombre, quelques marches qui menaient là où se tenait ce maître, adossé à une fenêtre avec le Kanchenjunga derrière, tout ça c'est... Voilà, ce sont des choses qui se gravent pour toujours dans votre esprit et puis d'autres qui s'en vont. Donc, c'est les mystères de la mémoire.
Elle est forte dans votre première phrase. Je suis né ce jour-là. Vous aviez 21 ans. Rien de ce que vous aviez vécu avant ces 21 ans n'a compté vraiment?
Bien sûr que si, ça a compté. Ça a mené à cela d'ailleurs. Mais c'était, disons, le point de bascule, le point d'aboutissement d'une quête qui ne savait pas trop ce qu'elle cherchait. Ouais. C'est ça souvent le problème. On sait ce qu'on voudrait que notre vie ne soit pas, c'est-à-dire ennuyeuse, dépourvue de sens, frustrante. Mais bien souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on souhaite dans l'existence. Il y a encore le sens d'une direction n'est pas arrivé. Et puis brusquement, c'est comme si le pôle Nord et un compas ou une boussole se mettent ensemble et la boussole s'oriente vers le Nord et vous dit voilà, le chemin que je peux suivre, il est devant moi, l'aboutissement du chemin est devant moi. Ce que j'imagine dans mon esprit d'adolescent être une forme de perfection humaine, je l'ai vivante, le messager et le message. Ouais. Nous y sommes.
Oui, cette perfection vivante, comme vous dites, c'est Kangyo Rinpoche, votre premier, celui qui deviendra votre premier maître spirituel. Vous ne parlez pas la même langue que lui, et pourtant, vous semblez subjugué par sa personne, par sa présence. Racontez ce que vous avez ressenti au contact de cet homme.
C'est à la fois très difficile, parce que les superlatifs semblent bien exagéré. Et en même temps, parfois, ça ne suffit pas à décrire les choses. En plus, c'est assez subtil parce que c'est tout dans le ressenti. Disons qu'il y a quand même une qualité d'être qu'on ressent en présence de quelqu'un. On se sent bien en présence de certaines personnes. Et là, il y avait cette personne qui était un peu comme une montagne stable, immobile. Et en même temps, on avait le sentiment, comme on voit un grand-père bienveillant qui vous regarde avec des yeux qui ne portent rien d'autre que cette bienveillance, cette sagesse. Et on est tout de suite rassuré, comme un enfant qui va trouver son grand-père et se trouve rassuré. Ça peut paraître enfantin. On peut se dire que c'est la meilleure manière de se livrer entre les mains d'un charlatan. Puis en même temps, si vous voulez, il y a des critères qui ne trompent pas. Cette qualité humaine, en plus, qui après, au fil des années, se révèle être sans faille. Quelqu'un qui n'attend rien de vous, qui ne cherche pas, et cherche pas de vous retenir, mais qui est prêt à offrir la sagesse qu'il a accumulée au cours de sa vie. Donc tous ces facteurs-là, la tranquille, la sérénité du lieu, qui fait l'impression du voyageur qui arrive un peu à destination.
Alors il y a cette rencontre qui va inspirer le reste de votre existence, mais ce premier grand voyage en Inde ne se limite pas à cette exploration intérieure. Il y a aussi une traversée de l'Inde en train. Vous semblez absolument, là aussi, subjugué par cette immersion intense dans le tourbillon bariolé, dites-vous, et vous ajoutez que ces voyages en Inde en train constituent le summum de l'exploration ferroviaire, un avis que semble partager avec vous la journaliste Carole Peisser.
Traverser l'Inde en train, c'est bouleverser tout ce qu'on a pu lire, voir ou imaginer sur ce pays. C'est partager son sommeil, son riz, son intimité et ses prières avec un million d'Indiens anonymes. C'est voler le regard d'une jeune mariée dans un champ ou d'un enfant qui se réveille dans la poussière à la lumière du petit matin. C'est le bruit des klaxons, des sonnettes des vélos et le chant du marchand de thé qui crie « chai chai » sur le quai. C'est un cerf-volant dans le ciel, une rizière au soleil couchant et des singes qui regardent passer le train. Le chemin de fer en Inde, c'est les veines et les artères qui charrient le son du pays. L'Inde voyage dans ses wagons vétustes. La vie, la mort, la religion et la politique sont rythmées par les rails et tout cela fonctionne merveilleusement bien.
Carole Peisser dans l'Échappée Belle sur France Culture en 1993. Vous, c'était en 1967, Mathieu Ricard, mais son récit doit résonner avec vos souvenirs.
Oui, c'est absolument incroyable. Et en plus, vous ne faites pas un voyage de 4 heures, c'est 3 nuits et 2 jours partagés. Alors, c'est des compartiments plus ou moins ouverts. Tout le monde se met à parler, ils déballent leur truc de chaque de couchage, ils font quasiment la cuisine. Les gens, parfois, rentrent ou sortent par les fenêtres s'il y a trop un embouteillage à la porte. On descend sur le quai pour se restaurer, on attend que le train se mette en marche pour remonter parce qu'il y a le temps, il s'ébranle tout doucement, des locomotives à vapeur. C'est un monde assez extraordinaire. Les gens dorment sur le quai, tout le monde engage la conversation, il y a des questions sur la politique, sujet favori en Inde qui vont d'un compartiment à l'autre, tout le monde s'en mêle, c'est très bon enfant. Et c'est vrai, on a des paysages sublimes. Donc c'est vrai que c'est une belle façon de découvrir l'Inde.
Alors ce goût du voyage et de l'aventure, d'autres dans votre famille l'avaient eu avant vous. Vous êtes le neveu du navigateur Jacques-Yves Le Toumelin, qui a effectué un tour du monde en solitaire de 3 ans, entre 1949 et 1952. Son voyage et son retour n'étaient pas passés inaperçus à l'époque.
Les mules d'Alain Gerbaud, Yves Le Toumelin retrouve la France au croisic. Son père et sa mère se sont portés à la rencontre de celui qu'on appelait le fou navigant, pour voir un instant plus tôt l'absent de 3 ans. Minute d'émotion, le navigateur s'effondre, les parents s'embrassent. Yves Le Toumelin, après avoir bouclé le tour du monde en 1022 jours de navigation solitaire, retrouve toute cette vie qu'il abandonna à 29 ans pour tenter sans la moindre chance de réussite, disait-on, le tour de la Terre. Et voici que tout le croisic est là pour l'accueillir. C'est le retour d'un bon garçon volontaire, tenace, courageux, que peut-être notre vie ennuyait.
Jacques-Yves Le Toumelin, votre oncle Mathieu Ricard, cherchait à fuir l'ennui de notre société, suggère ce journaliste. Vous semblez avoir beaucoup de tendresse et d'affinité pour cet oncle navigateur. Oui. À votre façon, vous avez pris le large un peu comme lui.
Oui, il faut préciser que le Kurun, un cotre norvégien de 10 mètres, était sans moteur.
Son bateau.
Oui, c'est un bateau à voile.
Ouais. Il naviguait à l'ancienne.
Il naviguait à l'ancienne, ça s'appelle un tour du monde sans histoire, parce que c'était un bon marin.
Oui.
Et il était effaré de voir des gens qui font le tour du monde à toute vitesse sans escale. Il disait, c'est complètement fou. Enfin voilà, donc il m'a beaucoup influencé, parce qu'évidemment c'était la magie de l'exploration, les amis qui venaient le voir, c'était des gens absolument incroyables, et aussi parce que lui et ma chère mère étaient férus de spiritualité, donc dans ses longues croisières solitaires, il avait beaucoup lu sur le Vedanta indien, le soufisme, la philokalie du cœur, des mystiques chrétiens. Et donc, des conversations dans sa maison en Bretagne, près des marais salants de Guérande, à Gwynedd, le paradis blanc, tournaient beaucoup autour de la spiritualité. Donc, c'était une spiritualité qui était d'un intérêt intellectuel, mais il n'y avait pas aussi de tradition vivante, il n'y avait pas une pratique associée à cela, même si ça faisait réfléchir. Donc, voilà, il y avait encore une étape à franchir en rencontrant une tradition vivante.
Et alors votre mère, hein, Yann Le Toumelin, qui est peintre, vous a suivi un peu, puisque quelques années après vous, elle a aussi fait ce voyage vers les maîtres tibétains de l'Inde, et elle est devenue non-bouddhiste, votre mère.
Donc elle m'a à la fois précédé, parce que j'ai baigné dans tous ses propres intérêts spirituels, et puis quand je suis rentré en 1967, je lui ai dit, mais écoute, si tout ça t'intéresse à ce point, là, il y a vraiment une tradition vivante, c'est comme s'il y avait 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise, ils sont là. Donc vas-y. Donc elle est partie en 68, un an plus tard, elle est restée plusieurs mois. Et voilà, après ça, nous avons suivi des chemins parallèles.
Oui, alors votre père, le philosophe et académicien Jean-François Revel, lui était moins sensible à cette ouverture à la spiritualité bouddhiste. Si bien que vous-même, vous oscillez un peu pendant un temps, c'est-à-dire que vous retournez, après ce premier voyage initiatique, vous retournez en France. Alors vous dites quand même que quand vous êtes en France, vous pensez toujours à Darjeeling et votre esprit est toujours là-bas. Par contre, quand vous êtes là-bas, vous ne pensez plus à la France. Donc on sent quand même que
oui, ça vient.
le choix est fait assez rapidement. Mais quand même, pendant plusieurs années, vous allez mener cette thèse très sérieuse en génétique à l'Institut Pasteur, aux côtés d'un prix Nobel, François Jacob, prix Nobel de médecine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes tiraillé? Vous savez que ça finira à Darjeeling?
Oui, alors c'est pas des oscillations, c'est pas des hésitations, c'est un lent mûrissement.
Ouais.
Et le mûrissement, c'est ce qui est nécessaire. Parce que se précipiter dans ce genre de décision, ça peut être la catastrophe. Et je recommande à personne de faire des décisions hâtives. Mmh. Notamment dans le domaine spirituel. On dit même dans les textes qu'il faut examiner un guide spirituel pendant 12 ans avant même d'envisager de se confier à lui pour faire ce chemin. Donc, à un moment donné, au bout de 6 ans, 7 ans, le moment était venu de prendre un aller simple.
Ouais. Mais comment a-t-il réagi justement votre père? Lui, le philosophe, vous rêvez scientifique, vous réussissez cette thèse, et puis vous lui dites, vous racontez ça hein, dans vos mémoires, vous allez le voir, vous prenez le temps de lui expliquer, je pars, avec cet aller sans retour pour Darjeeling.
Nous marchions en forêt en fait, et alors ça, il n'a pas fait de drame, je le suis éminemment reconnaissant. J'ai jamais aimé les drames, mais par contre, il est devenu quasiment muet pendant quelques temps, il m'a dit... comment tu vas survivre? C'est vrai, une question tout à fait légitime. Rétrospectivement, je ne me suis jamais demandé. Que j'avais aucun horizon matériel. Oui. Mais je me suis dit, comment je vais finir le reste de mes jours? Ça ne m'est même pas effleuré l'esprit.
Ça ne vous inquiétait pas?
Ben non, c'est bizarre, l'insouciance de la jeunesse, la joie de partir auprès de ce maître. Mais bon, on comprend qu'il était inquiet. Déjà, j'ai appris plus tard qu'il avait pleuré près d'un ami qu'il a été voir après cela. Il est venu me voir au bout de quelques années, donc il a vu que tout se passait très bien, que j'étais heureux, épanoui, que je ne fumais pas la moquette. Donc il a été rassuré sur mon sort.
Vous partez donc vivre à 26 ans dans une petite cabane pour un ermitage non loin de Darjeeling. C'est le début pour vous d'une grande aventure hein, qui vous mènera ensuite du Bhoutan au Népal en passant par le Tibet. Nous allons revenir avec vous sur ce demi-siècle que vous avez choisi de vivre en Himalaya. Mathieu Ricard est avec nous, le temps d'un bivouac sur le toit du monde, jusqu'à 17h sur France Inter.
Sous quelle étoile suis-je né? J'en suis encore me le demander. Je chercherai peut-être encore lorsque sera l'heure de ma mort. Ai-je choisi le bon sentier? J'en suis encore me
bon sentier. J'en suis encore à me le demander. Je voudrais ne pas regretter lorsque ça aura l'heure de ma mort.
Sous quelle étoile suis-je né ? C'était Michel Polnareff sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Plus encore que le possesseur de l'ombre feu à l'instant de mourir, le yogi des montagnes se désole au vu de la réalité des villages. Tel un vagabond, je pars pour la solitude des ermitages.
Il y a près de 1000 ans, Milarepa, maître de renom du bouddhisme tibétain, partait pour la solitude des ermitages. Un choix que vous avez fait à votre échelle, Mathieu Ricard, un millénaire après lui, en 1972. Cette fois, c'est un changement de vie radical. Vous avez effectué cette allée sans retour. À quoi ressemble le lieu où vous faites votre premier ermitage près de Darjeeling ?
D'abord, un choix infiniment plus modeste. Milarepa est un des grandes sources d'inspiration du bouddhisme tibétain. Il a passé 12 ans dans des grottes, dans des ermitages de haute montagne avec presque rien à manger. C'était beaucoup plus confortable, mais bon.
Ça restait spartiate, hein.
C'était quand même spartiate, si on peut dire. Donc c'était une petite cabane en bois, sur pilotis, au-dessus du tout petit monastère où vivait Kangyo Rinpoche, dans la forêt, des forêts de cryptomères. Ce sont des très grands arbres, les cryptomères du Japon. C'est une espèce de pin, mais très très haut, avec des cicales qui chantent très fort l'été pendant la mousson. En gros, il faisait quoi, 2,50 m sur 3 avec un petit balcon. Bon, il n'y avait pas ni d'eau, ni d'électricité, ni chauffage. On est à 2000 mètres, mais encore une fois, ça peut paraître bon. Ils se privent de tout, mais c'est des années tellement heureuses auprès de ce maître, dans des conditions si propices à ce que je souhaitais faire, ouais, que j'ai pas le moindre souvenir de confort, de frustration, de me dire qu'est-ce que je fais là. C'est vraiment des années particulièrement comblée et heureuse.
Ouais. Pourtant, à votre arrivée, votre maître spirituel, Kangyo Rinpoche, vous donne plusieurs sujets de réflexion. Et puis, il vous donne aussi pour consigne de réciter 100 000 fois des mantras et des versets. Vous calculez le temps qu'il vous faudra pour réciter ces textes, le nombre de fois qu'il vous a demandé. Vous vous dites, si je fais ça à plein temps, à longueur de journée, j'en ai pour 10 mois.
Oui, alors c'était une offrande qu'on appelle l'offrande du mandala de l'univers, qui est censée... Donc sur la voie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, il faut voir où est-ce qu'on va.
Ouais.
Donc avoir une sorte de refuge qui est la sagesse. La sagesse du Bouddha, un point de repère. On n'est pas à courir à droite à gauche comme à des ratés. Ensuite, il faut une motivation, celle de s'améliorer pour, en fin de compte, essayer de faire le bien des êtres. Mais il y a des obstacles sur la voie. Donc il faut une sorte de purification de tous nos poisons mentaux. Et il faut aussi des provisions sur la voie. Qu'on appelle accumuler des mérites. Alors, des mérites, c'est plutôt une énergie constructive. Et donc, pour cela, vous savez, parce que l'attachement est un obstacle. Donc, l'idée de donner l'ensemble de l'univers, toutes les beautés de l'univers, c'est extraordinaire. Donc, c'est pas seulement un mantra. Il y a un texte qui fait 2-3 pages, oui, qu'il faut réciter. On fait encore et encore l'offrande de toutes les beautés de l'univers. Donc, ça prend beaucoup de temps.
Mais oui,
mais c'est très bien.
Ça, mais vous dites ça avec un énorme sourire et vous êtes radieux et vous semblez le vivre avec une plénitude, une sérénité absolue. Mais,
comme disait mon père, tout ça, c'est le zéro de la spiritualité, répéter des formules. Et en fait, non.
Mais aucun ennui.
Ah non, on n'a pas le temps en plus. Non, vraiment pas. Si vous voulez, la vie spirituelle, c'est comme une rivière d'or fondu qui coule lentement. On a l'impression que chaque instant vaut la peine d'être vécu, contrairement aux dispersions, aux distractions de la vie chaotique dans une ville où on a l'impression de faire des choses, mais si on fait le bilan à la fin de la journée, à la fin du mois, on se dit, mais ça a été toute sorte d'agitation. Et là, c'est vraiment, on entre dans ce flot, ce que le psychologue Shinshenk Milai appelle le flot. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni trop difficile parce qu'on stresse, ni trop facile parce qu'on s'ennuie, mais qui est toujours à la pointe de vos capacités, et on oublie le temps, on oublie le moi. Il y a un élément de félicité dans ce flot intérieur.
Pendant 7 années, vous allez vivre là, sans jamais quitter ne serait-ce qu'une nuit, à côté de ce temple, et vous êtes pleinement heureux.
Oui, parce que c'est exactement ce que je souhaitais. je recevais tous les enseignements auxquels j'aspirais. J'étais en la présence de ce premier maître qui, au bout de 3 ans d'ailleurs, a quitté le monde, mais son fils aîné a pris la relève, m'enseignait pendant les retraites. Donc c'était, je voyais que toutes mes aspirations étaient comblées et que j'avais un chemin à faire et que ce chemin, chaque pas était une joie en forme d'effort. Hein. Parce que bon, vous dites ça peut être difficile, etc. Mais si vous faites une excursion en montagne, dans le grand bivouac, c'est dit ce que ça veut dire. Ben, des fois ça monte, ça descend, des fois il fait très beau, il y a un paysage sublime, des fois il y a de la grêle et c'est pas trop rigolo. Mais le fait que vous voulez aller voir un lac, ou dans ce cas aller rencontrer un ermite, ou visiter une des grottes de Milarepa, c'est une joie en forme d'effort. Si vous vous égarez, la fatigue s'installe, l'épuisement, le découragement, pourquoi irais-je à droite ou à gauche, je sais pas si ça m'éloigne ou si ça me rapproche. Donc le sens d'une direction, c'est ça qui vous nourrit finalement.
Quelle relation entreteniez-vous avec ce premier maître spirituel qui restera pour vous le maître racine, celui qui occupe encore aujourd'hui vos pensées? Puis il y en aura d'autres, hein, qui viendront ensuite sur votre parcours spirituel. Quelle relation avez-vous entretenue avec ces maîtres?
Alors c'est une relation qui n'est pas une relation de puissance, le maître ne domine pas le disciple, mais si vous voulez, quelles en pourrait-on nous donner dans la vie occidentale? Une personne âgée extrêmement expérimentée, un compagnon, un artisan qui enseigne les compagnons de France, ou un marin expérimenté qui vous apprend à naviguer pour faire le tour du monde. Mais là, il vous apprend à devenir un meilleur être humain. Donc c'est une aventure passionnante et quelqu'un qui simplement vous offre des réponses, qui vous donne une carte un peu pour traverser une grande forêt, qui vous éclaire ce chemin. Il ne va pas le parcourir à votre place. Le Bouddha a dit, je vous montre le chemin, c'est à vous de le parcourir.
Alors vous étiez resté très sédentaire avec votre premier maître spirituel. Avec le suivant, Dilgo Khyentse Rinpoche, vous allez beaucoup voyager. Vous allez d'ailleurs même revenir brièvement en France et à Paris. Vous n'éprouvez pas du tout le sentiment d'un retour à la maison. Au contraire, vous dites, j'éprouve le choc de la...
Choc culturel.
Voilà, le choc de la différence culturelle. Vous êtes devenu quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Ben forcément, il y a toujours quelqu'un d'autre au fil du temps. Donc revenir dans une cité extrêmement bruyante, avec des préoccupations qui sont plus les mêmes, c'est la préoccupation du gain et de la perte, de la louange et de la critique, de la renommée ou de l'anonymat, enfin tout ce qui fait en gros les préoccupations mondaines. Ça me semblait évidemment très étranger à mes propres préoccupations. Puis la ville avait changé, il y avait des grandes tours, il y avait même en 7 ans ça change.
Ouais. C'était en 1980. À ce moment-là, vous étiez déjà devenu moine bouddhiste depuis un an.
Oui, juste avant.
Juste avant.
Encore une fois, c'était une transition très douce. Je vivais quasiment comme un moine dans mon ermitage. Et puis, c'était plus pratique là-bas de porter les habits de moine, de faire carrément un choix pour toujours, que j'allais finalement ne pas avoir d'attache particulière. On dit, la vie monastique, ça se définit comme de passer de la vie de foyer à la vie sans foyer. Donc, ça me donne une grande liberté.
Oui. Vœu de chasteté.
Oui, mais si vous voulez avoir la responsabilité d'une famille, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas dire, écoutez, voilà, j'ai 3 enfants, mais je vais aller faire 3 ans de retraite. Ça va pas, quoi. Ouais. Et donc, maintenant, j'ai 30 000 enfants dans l'école que Karuna Sechen, notre organisation, a construite, mais je ne les ai pas enfantés, mais je les aime beaucoup. Et je n'ai pas ressenti le manque de ne pas avoir une famille et des enfants. J'ai beaucoup d'amis partout dans le monde et c'est très bien comme ça.
Et fait d'innombrables rencontres. En 1980 aussi, c'est grâce à votre maître spirituel que vous allez rencontrer pour la première fois le Dalai Lama. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre?
Le Dalai Lama avait rencontré Khyentse Rinpoche à Lhasa, juste avant de partir pour l'Inde. Il avait été très impressionné par ce maître qu'il avait rencontré. Et donc, quand tout le monde s'est réfugié en Inde à la suite de l'invasion communiste chinoise, qui a quand même détruit 5900 monastères, 1 million de Tibétains sur 6 sont péris sur les années qui suivirent. C'était assez dramatique, la fuite du Dalai Lama. Et donc, quand il est arrivé en Inde, il s'est enquis pour savoir si ce maître qu'il avait rencontré au Tibet était arrivé lui-même en Inde. Donc, il a souhaité le rencontrer à nouveau et il a souhaité recevoir des enseignements de lui. Tout Dalai Lama qu'il était, il était de grande humilité, il a étudié avec beaucoup de maîtres lui-même. Et donc, j'ai vécu dans leur intimité pendant une dizaine de jours.
Vous avez, en fait, votre maître spirituel était aussi celui du Dalai Lama. Donc, vous les avez vus
Alors, les voir ensemble, c'était incroyable, parce que souvent, quand deux grands dignitaires, ou hommes politiques, ou célébrités, c'est un tout petit peu à qui ça sera le plus haut. Ouais. Et là, c'était à qui ça serait le plus bas. Ouais. Le Dalai Lama se prosternait devant Khyentse Rinpoche au pas de la porte quand il arrivait. Ouais. Khyentse Rinpoche, qui était plus âgé et plus lourd, se prosternait une fois pendant que le Dalai Lama se reprenait 3 fois. Et en gros, il rivalisait de simplicité, ouais, d'humilité. Et c'était voir ça, c'était en soi un enseignement formidable. C'était comme si deux soleils brillaient en même temps dans la pièce.
Ouais. Peut-être abordait-il parfois ensemble la question de la compassion. Je vous propose d'écouter le Dalaï Lama interrogé à ce sujet en 1991.
Votre sainteté, la compassion, qu'est-ce que c'est pour vous ? Est-ce la seule réponse, le seul remède à la souffrance de l'humanité ?
Compassion is, I consider, the source of, I think, all positive things.
La compassion est la source de tout. La compassion apporte le bonheur, apporte la force, elle élimine la peur, elle ouvre la voie à un meilleur avenir. C'est elle qui fera que l'humanité soit plus heureuse. La vraie compassion n'est pas la pitié ni la sympathie. C'est bien plus que cela. C'est se sentir très proche de l'autre et en même temps avoir un sens de la responsabilité vis-à-vis de lui. Lorsque l'on ressent de la compassion vis-à-vis de quelqu'un, il y a aussi un profond respect et un engagement ferme à le servir, à l'aider. C'est ça la vraie compassion. Et cela, sans y mélanger de l'attachement. La compassion ou le sentiment d'intimité basé sur l'attachement manque d'impartialité. Tant qu'un être souffre, la compassion jaillira vers lui. Alors que la compassion mélangée à l'attachement n'est dirigée que vers ce que l'on aime. On la ressent à leur égard, mais elle n'est pas présente vis-à-vis de nos ennemis.
C'est le genre de question, de discussion que l'on a lorsque l'on côtoie ces maîtres spirituels, Mathieu Ricard.
Exactement. En fait, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a quasiment pas de conversation ordinaire.
Ouais.
Soit ce sont des instructions de ce genre, soit ils vous racontent des récits, la vie des maîtres du passé, des choses inspirantes, des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes, des endroits extraordinaires qu'ils ont visités. Et donc tout tourne autour de cela, c'est pas sur la guerre, la paix, les événements politiques, les querelles de clochers, etc., etc. Donc c'est toujours inspirant. Et à propos de la compassion, je voudrais citer une anecdote. En 2006, j'ai fait un an de retraite continue dans mon petit ermitage au Népal. Et j'ai fait une interruption de un mois parce que mon père est décédé, donc je l'ai accompagné les trois dernières semaines de sa vie. Et puis le Dalaï Lama enseignait en Belgique, donc j'ai pris un mois comme ça. Lorsque je l'ai quitté pour repartir dans mon ermitage et reprendre cette retraite d'un an, j'ai demandé une instruction, un conseil. Il m'a dit, au début, médite sur la compassion. Au milieu, médite sur la compassion. À la fin, médite sur la compassion. Donc, on pourrait dire que c'est un peu la panacée universelle. C'est la voie royale qui mène à l'éveil.
L'éveil, c'est effectivement cet aboutissement, cette quête que mène tout bouddhiste.
Oui, alors l'éveil, c'est l'éveil par rapport au sommeil de l'ignorance. C'est aussi l'éveil qui nous permet de reconnaître les causes de la souffrance, de les diagnostiquer, de trouver les remèdes, de les mettre en application, la possibilité de remédier à ces causes. Sinon, si la souffrance était irrémédiable, souvent le Dalaï Lama dit, vaut mieux prendre une bonne bière, aller à la plage et pas y penser, parce qu'on fait une double préoccupation, la souffrance plus s'inquiéter de la souffrance. Mais s'il y a un remède, c'est quand même dommage de s'en priver.
Nous allons poursuivre nos pérégrinations en Himalaya avec vous, Mathieu Ricard. Nous reviendrons notamment sur votre premier voyage au Tibet qui vous a particulièrement marqué. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Is it all that kind?
C'était Porcels qui chantait Free.
France Inter, le temps d'un bivouac.
On rentre dans le monastère.
On rentre dans la forteresse. Donc, vous voyez, les murs sont très épais. Et de chaque côté, il y a des moulins à prière pour les gens, pour faire tourner les moulins et donc dire des prières. Au bout de temps, ils sont recouverts de cuir.
Oui.
À l'intérieur, il y a des milliers de prières qui sont enroulées. Et lorsque vous faites tourner le moulin à prière...
Par la gauche, hein, toujours,
oui,
hein,
oui, oui.
Comme le fait la dame.
Comme le fait la dame, là. En un mouvement, vous faites des millions de prières. L'important, c'est toujours de dédier sa prière, non seulement à sa famille, mais aussi aux êtres autour de soi. Et voilà le monsieur qui fait ses prières.
L'ethnologue et tibétologue Françoise Pomaret au micro d'Anne Pastor à la porte d'un monastère au Bhoutan sur France Inter en 2010. Mathieu Ricard, le Bhoutan est un pays que vous connaissez bien. Vous y avez séjourné pendant une dizaine d'années entre 1980 et 1990. À cette époque, ce pays était encore très fermé aux touristes. C'était presque un privilège pour vous de pouvoir y être en tant qu'occidental. Vous avez traversé, vous le racontez, des vallées enchanteresques, très préservées. Décrivez-nous ces vallées que vous avez traversées.
Alors tout d'abord, déjà, dès l'entrée au Bhoutan, c'est assez inusuel parce qu'on arrive au poste frontière. Vous savez, normalement, le poste frontière, c'est jamais très rigolo.
Ouais.
Mais donc, je suis arrivé avec Kensi Rinpoche en voiture. Et au poste frontière, il y avait des gardes qui, en voyant arriver la voiture de Kensi Rinpoche, ont posé leur fusil par terre, se sont précipités pour recevoir sa bénédiction. Je me dis, là, on entre dans un pays un peu différent.
Ouais, parce que le bouddhisme est très implanté au Bhoutan.
Certains disent, le ciel est bouddhiste, la terre est bouddhiste. Et surtout, c'est un pays qui n'a jamais été conquis, à la différence du Tibet. Donc, depuis l'introduction du bouddhisme aussi au 8e siècle par Padmasambhava, le maître né du lotus, le bouddhisme n'a cessé de s'épanouir. Et il y a des petits ermitages à chaque flanc de montagne, des temples, des monastères, les collines sont couvertes de drapeaux à prière, vous avez une eau parfaitement pure. C'est le seul pays au monde où la constitution garantit 60% de couverture naturelle, c'est-à-dire on préserve l'environnement, la chasse et la pêche sont interdites. Et puis des vallées, effectivement, je me rappelle découvrir en haut d'un col la vallée glaciaire de Gangten, où c'est une pente douce, avec c'est des, là où il y a des grues à coups noirs qui viennent hiberner de Sibérie. Il n'y a pas d'électricité. Il y a une petite colline avec un petit temple, monastère au-dessus. Et on se dit, voilà, moi, si je pouvais finir mes jours-là, ça serait pas trop mal.
On sent l'œil du photographe dans votre façon de décrire les lieux.
Et puis alors, une procession de moines habillés en habits de danse qui l'escortait jusqu'au village, toute la population. Enfin, c'était un peu aussi, il n'y avait aucune trace qui disait qu'on n'est pas encore au Moyen-Âge. Et c'était, voilà, c'est un pays enchanteur. Quelqu'un disait, le Bhoutan pourrait devenir comme beaucoup d'autres pays qui se sont dégradés, ouverts, mais presque aucun pays ne peut redevenir comme le Bhoutan.
C'est, on comprend que Dilgo Khyentse Rinpoche, votre maître spirituel, ait choisi cette terre pour l'accueillir après son exil du Tibet, parce que comme bon nombre de maîtres tibétains, il a dû fuir le Tibet après l'invasion chinoise.
Et ceux qui n'ont pas fui ont été souvent torturés à mort, noyés, électrocutés, etc. Donc effectivement, là, il avait peu à peu, d'ailleurs il n'a pas immédiatement cherché à enseigner, c'est des gens qui ont reconnu, c'est un peu comme les abeilles qui viennent vers la fleur spontanément, ouais. quand il y a du nectar. Puis il restait tranquille, comme il avait l'habitude, et puis les gens sont venus à lui de plus en plus, et finalement, c'est devenu peut-être la figure spirituelle la plus respectée au Bhoutan à son époque.
C'était un traumatisme pour lui d'avoir quitté le Tibet à la fin des années 50.
Vous savez, lui, il y a un très beau poème, le pays natal est comme un rêve, tout finalement n'est qu'une illusion, et que ce qui compte, c'est de s'établir dans la citadelle immuable de la réalisation spirituelle. Donc l'impermanence, ne pas être attaché à des lieux, ça fait partie du chemin. Et Kensi Rinpoche, bien sûr, incarnait le point d'aboutissement de ce chemin de liberté intérieure.
Le rapport à la douleur et à la souffrance de ces maîtres spirituels que vous côtoyez est assez saisissant. Il y a quelque chose d'anecdotique mais assez amusant que vous racontez, notamment avec ce maître spirituel qui se retrouve parfois dans des situations assez incroyables où on lui verse de l'amour moutarde par erreur, hein, pas pour l'embêter, mais on lui verse de la moutarde dans son thé, ou quelqu'un le brûle avec un cigare, et à chaque fois, il réagit avec un flegme, comme si la douleur, la souffrance ne l'atteignait pas.
C'est-à-dire que c'est évidemment la douleur, c'est une sensation. Alors on la ressent. Mais je vous donne cet exemple dont vous parlez. C'était en France et il y avait quelqu'un qui soignait avec des moksha. Vous savez, c'est une sorte de cigare brûlant parce qu'il avait des troubles de digestion. Donc on lui a proposé ce traitement. Il a dit pourquoi pas. Donc il s'est mis torse nu. Et puis pendant ce temps-là, il lisait ses prières. Et ce médecin était un peu distrait, je dois dire. Et donc il parlait à droite à gauche en approchant son cigare brûlant. Et à un moment, ça a senti le brûler, la chair cramer. Et il a regardé avec horreur, il a vu qu'il avait fait un trou dans l'abdomen de Kenshin Rinpoche. Moi, j'étais là un peu loin, et puis j'observais Kenshin Rinpoche qui disait ses prières sans broncher. Et puis, pourquoi n'avez-vous rien dit ? Je me disais, je crois que c'était le traitement. Donc, vous voyez, alors c'est vrai, moi, j'ai, avec d'autres de mes amis moines, passé dans des laboratoires de neurosciences, on a fait des expériences sur la douleur. Il y a des techniques de ne pas s'identifier à la douleur, d'avoir un vaste espace de félicité, de présence ouverte, qui fait que l'impact émotionnel de la douleur est diminué.
Ce qui a dû aussi faire un peu mal, c'est ce retour. Parce que après 25 années d'exil, ce maître spirituel est autorisé par les Chinois à revenir pour quelque temps au Tibet. Vous êtes, vous êtes absolument ravi, vous êtes autorisé à l'accompagner. Le Tibet, à ce moment-là, évidemment, personne ne peut y aller. Vous passez entre les gouttes, vous avez les autorisations pour y aller. Vous avez en tête Alexandra Davidnel, la première femme occidentale à avoir pénétré dans Lhasa. C'est un mythe pour vous et vous allez pénétrer le Tibet. Racontez comment ça s'est passé.
En 1985, Kenshin Rinpoche a exprimé le souhait au roi du Bhoutan, qui était donc aussi son disciple, de retourner une fois au Tibet après 30 ans d'exil. Donc c'était fermé, surtout le Tibet oriental, personne n'y retournait. Il y avait pas une lettre, pas une personne n'avait venu du Tibet depuis 1959. C'était le mur du silence. Et donc le roi du Bhoutan demande au gouvernement chinois, qui pour lui faire plaisir accepte, donc une délégation officielle bhoutanaise qui comportait 8 Tibétains, 3 Bhoutanais et un Français. Donc ils étaient un peu surpris quand même de nous voir arriver. Ouais. Dans un endroit où nous sommes allés, j'avais jamais vu un occidental. Ils pensaient que j'étais indien. Et puis, ce monde, pour eux, c'était comme si le soleil se levait de nouveau. Toute la population venait. Ils les voyaient, ils se pressaient pour lui parler, lui expliquer qui était encore en vie, qui était mort, raconter brièvement leur histoire. Donc, c'était très intense et chargé émotionnellement. Mais Kenshin Rinpoche, lui, c'était pas quelqu'un, disons, de sentimental. C'est-à-dire qu'il était là pour leur faire une présence bienveillante, pour les réconforter, parce qu'ils étaient tellement heureux de revoir enfin un grand maître spirituel. Donc ça a apporté un bien fou à toutes ces populations qui souhaitaient, avant de mourir, revoir ceux qui l'avaient connu auparavant, et puis les jeunes rencontraient un tel maître.
Et pour vous, ça a été aussi l'occasion de mesurer le dédain des autorités chinoises pour le bouddhisme et ses adeptes.
Oui, alors il parlait d'opium du peuple, de barbarisme, d'arriérisme, et j'ai fait un point d'ailleurs, j'ai fait exprès, nous sommes arrivés en Chine à Chengdu, dans la capitale du Sichuan, il y a un banquet donné en son honneur, parce que c'est soi-disant un voyage officiel. Et donc, les officiels m'ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit, je faisais une carrière de scientifique avec un prix Nobel. Mais je me suis dit, finalement, le bouddhisme, c'était quand même plus intéressant. Pour eux, c'était comme... Oui. Ils ne comprenaient pas, quoi. Mais j'ai voulu marquer le coup et dire ça.
Ils ne comprenaient pas comme votre père, en son temps, Jean-François Revel, n'avait pas forcément compris ce choix. Il était revenu sur ce sujet en 1996 dans Envoyé spécial. On l'avait interrogé sur la religion et plus particulièrement de vos choix de devenir moine bouddhiste.
Moi, je suis ancien élève des jésuites, mais complètement athée. D'ailleurs, les jésuites, c'est une fabrique d'athées, à commencer par Voltaire. J'ai un fils qui est moine bouddhiste. J'ai une fille qui s'est mariée selon le rite orthodoxe grec, je ne sais pas pourquoi. Et comme ma deuxième épouse est juive, donc j'ai un fils aussi qui, selon la loi mosaïque, est juif, puisque c'est la mère qui détermine la religion, que d'ailleurs il pratique fort peu, ou pas du tout. Donc la famille est une image de l'œcuménisme le plus complet.
Et vous-même, vous restez complètement insensible au bouddhisme ou au judaïsme ou au
christianisme ? Non, ça m'a... Évidemment, toutes les religions, toutes les métaphysiques m'intéressent beaucoup en tant que phénomène de culture.
Mais vous n'avez pas plongé, comme on dit ?
Ah, pas du tout, non, pas dans le bouddhisme. Car je répondais dans l'étude du bouddhisme, oui, ça m'intéresse beaucoup.
Jean-François Revel, lorsque vous regardez Mathieu, votre fils, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de lui?
Ah oui, sans aucun doute. Je veux dire, enfin, la notion de fierté n'a pas beaucoup à intervenir, disons, parce que je n'ai pas à être fier ou pas fier. Il est libre d'avoir choisi sa voie. J'ai éprouvé, je l'avoue, certains regrets, parce que le rêve de tout philosophe est d'avoir un fils scientifique, n'est-ce pas pour... Mais enfin, je n'avais pas à discuter.
C'est formidable d'écouter le témoignage de mon père, sa voix, c'est très touchant. Et c'est à la suite de ça, d'ailleurs, que nous avons finalement dialogué. Non pas sur une réconciliation père et fils, puisqu'on n'en s'est jamais fâché.
Vous êtes jamais perdu de vue ou fâché lors de cette
discussion. Pendant longtemps, je suis pas revenu, mais après ça, je le voyais, je racontais un peu sur le plan politique ce qui se passait au Tibet. Et puis, quelqu'un nous a proposé de faire un dialogue. Nous sommes retrouvés au Népal. Et pendant 10 jours, nous avons dialogué sur les idées. C'était pas, encore une fois, le retrouvaille, mais aller au fond dans ces idées.
Oui. Un livre qui va marquer un tournant dans votre vie en vous mettant dans la lumière médiatique, Mathieu Ricard. Vous allez nous raconter ce que ça a changé dans un instant.
De mon cœur tu tombes, dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens aimés. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer pour te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé. Et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. Mais quoi qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigués. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes, on était fatigués.
C'était Kiki de Julien Doré. La programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Valentine Chédebois.
Et alors là, vous avez une cinquantaine de moines. Ce sont tous les moines du collège philosophique. Donc il y a des débutants, il y en a qui ont déjà fait 7 ans d'études. Alors il y en a généralement 2 qui sont assis par terre et puis 2 autres qui sont debout devant eux et alors qui lancent un argument. Et à chaque fois qu'ils lancent un argument, ils frappent dans les mains. Ça réveille, ça donne plus de vivacité au débat. C'est aussi un peu pour décontenancer l'adversaire. Là, ils ont l'habitude, donc ils sont pas très décontenancés. Et donc il y a une vingtaine de groupes comme ça. Qui sont 4 par 4 ou 2 par 2. Et chacun débat sur un sujet différent, en criant le plus fort possible. Et des fois, quand il y en a un qui est très fort, il y en a deux qui se mettent contre lui. Au milieu des pires débats, vous avez l'impression qu'ils sont rouges de colère. Brusquement, les deux protagonistes s'écroulent de rire.
Notre invité Mathieu Ricard expliquant les joutes philosophiques dans un collège de moines bouddhistes. C'est étonnant ces joutes verbales. Le bouddhisme n'est pas seulement fait de méditation, de silence et d'ermitage seul face à soi-même. Ça peut être très animé, on l'entend.
Oui, assez curieux, c'est des gens qui doutent que le fait que le bouddhisme soit une philosophie. Mais il y a des traités philosophiques, il y a des centaines de volumes sur des sujets les plus ardus, la nature de la réalité. Il y a des volumes de 300 pages sur la théorie de la perception qui sont finalement très contemporains. Et surtout, c'est une tradition vivante. On reprend des questions, on en débat à l'infini, on pèse le pour et le contre des arguments.
Alors, une joute philosophique, vous en avez eu une par écrit avec donc votre père, Jean-François Revel, dans cet ouvrage publié en 1997, Le moine et le philosophe. Il a été tout de suite partant pour ce livre avec
vous. Alors, en fait, c'est moi qui étais surpris parce que j'ai reçu un coup de téléphone en Népal. On devait juste d'avoir un téléphone au monastère, quelqu'un me dit ce que voudrait faire un dialogue avec votre père. Moi, je ne pouvais pas imaginer que ce philosophe athée,
oui,
un peu bouffeur de curé, veuille dialoguer avec un moine bouddhiste, même si c'était son fils. Donc, je lui dis, écoutez, demandez-lui, je n'entendrai plus jamais parler d'eux. Et en fait, ils lui ont proposé plusieurs choses, comme font souvent les éditeurs, et quand on lui a proposé ça, il dit ça, je ne peux pas refuser. Donc, ils ont rappelé. Je dis, oh là là, maintenant, c'est moi qui vais dans le pétrin parce qu'il, ouais, va me passer au rouleau compresseur. Donc, j'ai dit, je vais jouer sur mon terrain. Qu'ils viennent. Donc, nous avons passé 10 jours merveilleux sur les collines du Népal. Et en fait, c'était vraiment un échange d'idées. On a fait une liste de sujets sur les grands sujets de pensée de l'humanité. Bon, c'était un peu ambitieux, mais néanmoins, au fil du temps, nous avons couvert pas mal de choses.
Oui, ambitieux, et ce livre va connaître un grand succès. Il va être traduit dans plus d'une vingtaine de langues et il va vous mettre dans la lumière médiatique. Ça va changer votre vie?
Bah, c'est-à-dire, oui, les trompettes de la renommée, on voit à quel point c'est artificiel. Parce, ouais, que vous êtes le même type qu'une semaine avant, et puis d'un seul coup, on vous reconnaît dans la rue. Bah, c'est facile aussi quand vous êtes un drapeau ambulant habillé en rouge. Mais en même temps, je veux dire, on se prend pas la tête en se disant « je suis devenu un génie du jour au lendemain » parce que vous êtes exactement la même personne qui était totalement inconnue au bataillon. Et puis ben, les gens vous arrêtent dans la rue. Je peux vous emmener quelque part. Ah ben, je suis déjà arrivé. Ben, c'est pas grave, on fait un tour de pâté de maison pour discuter. Donc voilà, c'est vrai que j'avais à cœur de partager des idées que m'avaient apportées mes maîtres de façon avec beaucoup d'humilité, mais en même temps, peut-être que des idées qui pouvaient être utiles à d'autres, donc pourquoi pas.
Suite à ce livre, il y a eu de nombreux ouvrages à succès, donc de l'argent, et vous avez continué de vivre dans des petites cabanes en bois, et tout cet argent, vous l'avez utilisé
pour
votre
association.
De l'argent, je n'y ai
jamais touché. En fait, ces livres, ça me coûte de l'argent, parce qu'il faut bien imprimer à un moment donné sur une imprimante pour les brouillons. Mais j'ai décidé dès le début que je n'avais pas besoin de ça, il valait mieux le dédier à une bonne cause. Et donc, d'abord, c'était au travers de la Fondation de France. Puis ensuite, on a fondé Karuna Sechen, une organisation caritative qui essaie d'aider les plus démunis en Inde, au Népal, au Tibet, et parfois dans d'autres pays. Et donc, au fil du temps, de mécènes nous ont rejoints, d'autres livres sont venus. J'ai toujours dédié 100% de mes droits d'auteur, conférences, etc. Donc, c'est une joie. C'est la même chose qui manquait un tout petit peu. C'est on médite sur la compassion, mais si on ne la met pas en action, c'est un petit peu stérile, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous aidons 400 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet, dans le domaine de la santé, éducation, autonomisation des femmes, énergie solaire, etc., etc.
Mathieu Ricard, voici ce que disait à votre sujet Rabjam Rinpoche, le petit-fils de votre maître Dilgo Khyentse Rinpoche, en 1996.
Je lui pose souvent des questions sur les religions occidentales. Nous échangeons nos connaissances. Nous étudions ensemble. Mathieu peut devenir un grand maître s'il le veut. Il peut enseigner, mais je pense qu'il préfère pour l'instant continuer dans la traduction et la publication des livres.
Vous considérez Mathieu comme un Tibétain ?
Oui, il s'est transformé en tibétain, oui. Avec l'enseignement qu'il a reçu, on peut dire qu'il en sait plus, beaucoup plus que la majorité des Tibétains.
C'était en 1996. Vous êtes devenu un grand maître spirituel, Mathieu Ricard.
Rabjam Rinpoché, que j'aime beaucoup, je l'ai connu dès l'âge de 8 ans, est bien indulgent et beaucoup trop flatteur. Je suis un éternel disciple. Ça, je veux clairement dire les choses. J'ai par contre vocation de préserver l'héritage culturel. J'ai photographié 40 000 documents sur l'art tibétain. J'ai contribué en passant des mois, presque une année, à imprimer des textes, à réimprimer 400 volumes de textes anciens. On a poursuivi ça sur 30 ans. Donc voilà, j'ai à cœur de préserver l'héritage de Kensei Rinpoche, notamment. J'ai traduit 10 volumes de textes et d'enseignements oraux. Et c'est ma vocation première. Donc je reprends maintenant d'ailleurs la traduction des textes. Je suis entrepris la traduction d'un texte de 700 pages. Donc en fait, d'un certain point de vue, je suis pas du tout un bouddhiste New Age, mais très traditionnel sur le fond.
Et en manque de votre ermitage au Népal, puisque depuis l'épidémie de Covid, hein, vous vivez en Dordogne auprès de votre mère, Yann Le Toumelin, qui a 98 ans. Votre ermitage au Népal vous manque ?
Oui et non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, bon, on est très tranquille en Dordogne. Je suis très heureux d'être auprès de ma mère, de la servir. Mais bon, c'est tant qu'à choisir un lieu d'être confiné professionnel comme je le suis, c'est vrai que d'avoir 200 km d'Himalaya devant soi, c'est pas trop mal.
Quoi. Ouais. C'est pas trop mal, on s'en rend compte en lisant votre livre, parce que vous êtes évidemment devenu aussi un grand photographe. Un voyage immobile, l'Himalaya vu d'un ermitage. Les photos sont absolument superbes. On comprend que vous soyez bien dans vos montagnes.
C'est vrai. Je me dis souvent, les conditions sont si parfaites que si ma pratique spirituelle ne progresse pas, je suis le seul responsable.
Merci. Mathieu Ricard. Je rappelle le titre de vos mémoires parus chez Alary Éditions, Carnet d'un moine errant. Et puis donc je signale ce livre de photographie, Un voyage immobile aux éditions de La Martinière. Un grand merci à vous Mathieu Ricard et bon retour en Dordogne.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli Radio France. Et pour nous adresser un message, rendez-vous sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.